France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Quentin Péchard, Sacha Mattei, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Pénélope Lemoguen, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. Culture Monde, comme chaque vendredi, c'est une émission en deux parties. Un retour des Philippines avec le journaliste Antoine Védeillé qui s'est rendu pour Arte auprès des pêcheurs inquiets de se voir privés d'accès aux meilleures zones de pêche dans les espaces maritimes disputés par la Chine. Et puis, dans la table ronde d'actualité, nous essaierons de comprendre ce que l'usage massif des drones de combat change à la guerre et pourquoi le champ de bataille ukrainien fait figure de laboratoire en matière de stratégie militaire. Nous en discuterons avec nos invités, Guillaume Maurice, journaliste aux Observateurs de France 24, co-réalisateur avec Liz Kinman d'une enquête « Ukraine, la vie sous les drones russes » et avec Léo Peria-Peignet, chercheur au sein de l'Observatoire des conflits du futur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Antoine Védeillé.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et réalisateur indépendant. Vous revenez des Philippines, où les habitants, et en particulier les pêcheurs, constatent avec amertume leur exclusion progressive des zones de pêche en mer de Chine méridionale. Il faut dire que la zone est l'objet de nombreux contentieux entre les pays riverains, chacun revendiquant sa souveraineté sur de tout petits îlots et récifs, et surtout sur les eaux et les sous-sols qui les entourent. Face à la stratégie du fait accompli et de l'intimidation déployée par les autorités chinoises, les sorties en mer deviennent de plus en plus risquées pour les pêcheurs. Et c'est ce que vous avez constaté en accompagnant le capitaine Dodong à bord de sa petite embarcation.
Ça y est, les Chinois nous prennent en chasse. Ils ne veulent pas nous laisser entrer dans le récif. Ils ont un autre navire là-bas. Ils vont se croiser pour ne pas nous laisser passer et bloquer l'accès à Scarborough. Il faut qu'on s'en aille. C'est dangereux. Ils vont nous percuter.
Vous êtes donc à bord de cette embarcation du capitaine Dodong. C'est un tout petit navire de pêche et... Vous filmez la panique, Antoine Védeillé, qui s'empare du petit équipage lorsque ils aperçoivent les navires chinois. Il faut dire que face à eux, il y a notamment un navire de guerre et pas seulement.
Oui, en fait, les pêcheurs philippins, désormais, dès qu'ils s'aventurent en mer, ils ont la quasi-certitude de croiser des navires chinois. Ça peut être des navires des gardes-côtes chinois, ça peut être des navires de guerre. Nous, comme on l'a constaté, on s'est retrouvé nez à nez avec un destroyer de la marine chinoise. Mais il y a aussi dans ces zones, depuis quelques années, des navires, des milices, des navires de pêche que la Chine a transformés en navires paramilitaires. Et ce sont ces navires qui sont les plus dangereux, parce que quand on se retrouve nez à nez avec les gardes-côtes et les destroyers, bien évidemment, c'est très impressionnant. Un destroyer, c'est un navire de guerre. Celui qu'on a croisé était même équipé d'un hélicoptère de combat à l'arrière du bateau. Mais ce sont pas ces navires qui vont s'en prendre aux pêcheurs, ce sont justement ces milices paramilitaires. De loin, on dirait un chalutier, c'est un bateau de pêche. Et puis quand il s'approche, on voit très bien que le bateau est équipé de nombreuses caméras. Il y a des hommes armés à l'intérieur et ce sont ces bateaux qui font le plus peur aux pêcheurs.
Et justement, que craignent-ils les pêcheurs philippins? On les entend donner l'ordre de faire demi-tour quand ils s'aperçoivent qu'ils sont cernés par trois navires chinois. Que redoutent-ils précisément? Quel type d'attaque?
D'être coulé, d'être attaqué. Alors, la principale menace, et c'est l'arme dissuasive utilisée par les Chinois, c'est l'utilisation de canons à eau. mais des canons à eau très puissants. Et la petite embarcation sur laquelle on est, elle est faite de bois, elle est bancale, et évidemment, elle ne résiste pas à un tir puissant de canon à eau. Mais il y a aussi le risque d'être percuté ou le risque d'être accosté par les Chinois, puisque on a des témoignages de pêcheurs philippins qui disent avoir été accostés par les Chinois, et les Chinois leur détruisent leur matériel de navigation, le radar, ou leur volent les produits de leur pêche. Donc, nos pêcheurs, après, on venait de faire 17 heures de navigation, on avait passé une pleine nuit et la moitié d'une journée en mer, et ils font demi-tour, les cales vides, mais parce que le risque est là d'être percuté et donc coulé.
Le capitaine Dodong, il avait pour objectif d'atteindre le récif de Scarborough, donc c'est à l'ouest des Philippines. Pourquoi cet endroit en particulier intéresse-t-il les pêcheurs philippins ?
Parce que ça fait partie des eaux les plus poissonneuses de la planète. Il y a une légende aux Philippines qui raconte qu'il y a tellement de poissons dans les Scarborough que c'est même pas la peine de jeter les filets, que les poissons viennent directement dans le navire. Et donc, pour les pêcheurs, c'est des zones dans lesquelles ils pêchent depuis toujours. C'est une zone, le récif de Scarborough, qui appartient aux Philippines. Le droit de la mer est très clair là-dessus. Il y a eu un jugement en 2016 de la part de la Cour permanente d'arbitrage de l'AE aux Pays-Bas qui règle les contentieux internationaux. Et pour autant, c'est ce que vous disiez en introduction, c'est la stratégie du fait accompli. La Chine considère que la zone lui appartient et donc la Chine positionne ses navires et empêche l'accès aux pêcheurs philippins.
Et donc, pour les pêcheurs qui, pour la plupart, sont originaires de la province de Zambales, qui est sur la côte ouest des Philippines, les conséquences, elles sont terribles parce que de nombreuses familles dépendent des activités de la pêche. On le voit bien sur les marchés où vous vous rendez sur la côte. Le poisson, il y en a. On trouve du mérou, notamment. Il se fait de plus en plus rare, c'est ce que vous disent aussi les vendeuses.
Et les poissons, alors évidemment on en voit sur les étals, mais beaucoup de poissons sont des poissons d'eau douce ou des petits poissons qui sont pêchés. Évidemment les Philippines c'est un archipel, donc c'est entouré, la mer est tout autour, donc il y a évidemment du poisson, mais il n'y a plus les poissons, les gros poissons que les pêcheurs pouvaient trouver dans le récif de Scarborough. Et ça impacte évidemment toute la population, ça impacte les pêcheurs, mais ça impacte aussi évidemment les personnes sur les marchés. On a interviewé une vendeuse qui nous dit on a de moins en moins de poissons, donc le poisson on le vend plus cher, mais parce qu'on le vend plus cher, les gens n'ont pas le moyen de l'acheter, donc on nous en achète moins. Et elle nous dit que son revenu a diminué de moitié. Et le capitaine Dodong qu'on a suivi, il incarne aussi ce phénomène de la vie qui devient de plus en plus difficile. C'est que son épouse a été contrainte de partir travailler comme domestique. Alors l'ironie c'est qu'en plus elle est partie travailler à Hong Kong, donc en Chine, parce qu'il n'avait plus les moyens, avec l'argent qu'il gagne avec la pêche, il n'a plus les moyens de faire vivre sa famille et d'assurer une éducation pour ses 4 enfants.
D'autant que les revenus de la pêche, jusque-là, pour cette personne, ce capitaine avec qui vous montez à bord, n'était pas un petit revenu de subsistance. Il vivait confortablement de la pêche, il a pu construire sa maison grâce à ça, et il est très fier de vous la montrer d'ailleurs.
Exactement, et il pouvait gagner, quand il pêchait dans les Scarborough, jusqu'à 150 euros par semaine. 600 euros par mois, c'est énorme aux Philippines. Et donc oui, il a une belle maison, il nous dit il a l'eau potable, il a un frigidaire, une salle de bain, des toilettes. Et sauf qu'aujourd'hui, ce qu'il a construit, il l'a, mais pour assurer l'avenir de ses enfants et de sa famille, il a fallu que son épouse parte travailler comme domestique à Hong Kong.
C'est une bonne pêche, je vais pouvoir m'acheter du riz. Celui-ci, c'est un poisson papillon. Et là, un poisson clown, comme Nemo. Cette situation me pèse sur le cœur. Avant, on pêchait des gros poissons. On les mangeait, on les vendait, et ça permettait à plein de gens de se nourrir. Aujourd'hui, pour survivre, on se contente de pêcher des poissons à mettre dans des aquariums. Tout ça, c'est à cause des Chinois.
Cet homme qui se confie à vous, Antoine Védeillet, est aussi un pêcheur expérimenté, mais lui, il s'est reconverti dans la pêche aux poissons d'aquarium et il pratique donc la plongée sous-marine. Est-ce que cette plongée sous-marine qu'on voit très artisanal. Il a un petit tuyau par lequel il respire, des palmes qui sont bricolées de briques et de broc. Est-ce que cette pêche sous-marine a plus de chances de passer inaperçue ?
Oui, parce qu'elle se fait... par rapport aux Chinois, vis-à-vis des Chinois, oui, elle se fait parce qu'elle se fait juste à côté des côtes philippines. Elle ne se fait pas en pleine mer. Cet homme que nous avons suivi, il prend une toute petite embarcation et il est à quelques centaines de mètres à peine du rivage. Mais c'est toute l'ironie de la situation, c'est-à-dire que cet homme, voilà, il a passé sa vie en mer, il a pêché partout en Asie, jusqu'en Indonésie, au large de l'Australie même. Et aujourd'hui, il en est réduit à plonger avec une épuisette et un matériel de fortune pour pêcher des poissons clowns, des poissons multicolores que l'on retrouve dans les animaleries et dans les aquariums à Mani, mais aussi en Europe, en France, puisqu'évidemment ces poissons s'exportent et il en est réduit à vivre de la pêche de poissons d'aquarium et il gagne 30 euros par mois.
Des petits poissons qui, à l'unité, valent quelques centimes à peine, même s'ils seront revendus bien plus cher à l'autre bout de la chaîne. Antoine Védeillé, dans cette mer méridionale de Chine, il y a un autre îlot qui est particulièrement, enfin qui est disputé, c'est l'îlot de Pag Asa. C'est un tout petit territoire de 1 km carré. Ici, les Philippines exercent et maintiennent vaille que vaille leur souveraineté. 400 personnes, civiles et militaires, y vivent sur ce petit territoire. Dans quelles conditions ?
Dans des conditions très difficiles, cet îlot, vous l'avez dit, c'est un îlot minuscule, mais c'est l'avant-poste philippin en mer de Chine méridionale. C'est le territoire philippin le plus éloigné de Manille et le plus éloigné du continent, et donc par définition le plus proche de la Chine. Cet îlot vit sous la menace constante des Chinois. Il y a un blocus maritime opéré par les Chinois, notamment avec leurs milices paramilitaires autour de Pag Asa. Et c'est un petit caillou déposé en pleine mer qui est régulièrement balayé par des typhons, des tempêtes, et les gens qui vivent sur place sont extrêmement pauvres. Nous, on a filmé une famille qui vit dans des conditions vraiment misérables, mais il y a un caractère patriotique à vivre sur place, et c'est ce que nous dit d'ailleurs la mère de famille qu'on a interrogée. Elle nous explique qu'elle vit là parce qu'elle aime les Philippines et que vivre ici, c'est défendre la souveraineté des Philippines en mer.
Il y a aussi des incitations sociales et financières qui entretiennent ce peuplement. Elle vous explique que le logement est gratuit, qu'il y a quelques avantages financiers, un accès à l'école aussi qui est plus facile que sur la côte. Ce peuplement de Pag Asa, c'est une priorité stratégique pour les Philippines. On peut dire qu'ils y mettent les moyens.
Ils y mettent les moyens. Il y a une vingtaine d'années, il y avait à peine une dizaine de personnes. Aujourd'hui, 400 personnes. C'est très peu, mais c'est énorme sur un si petit territoire. Et alors, il n'apparaît pas dans le reportage, mais moi, j'ai rencontré le maire de la ville qui nous disait vouloir même développer des infrastructures touristiques parce que c'est un bel endroit, c'est en pleine mer, la mer est transparente. Les Philippines, c'est un pays touristique en Asie du Sud-Est. Et donc, pourquoi pas développer la présence. Le problème, c'est qu'on se demande comment ils vont pouvoir le faire parce que c'est très difficile d'accéder à cette île. Les avions, les petits appareils qui atterrissent ne peuvent pas voler tout le temps à cause du vent et de la météo. Ils ne peuvent voler que le matin. C'est très difficile d'atterrir sur place. L'autre solution, c'est d'arriver par bateau. Mais le temps en mer est très long et il y a évidemment toujours le risque d'être confronté aux Chinois.
Et puis, vous disiez, la mer est belle, mais lorsque le temps est calme, parce que c'est aussi un endroit qui est soumis aux conditions météorologiques difficiles. On voit cette mère de famille, Gilenda Pacheco, qui est arrivée donc récemment avec son mari et leur 9 enfants. On est à un moment où il pleut de manière très dense et l'eau s'infiltre partout et elle tente de colmater comme elle peut la petite cabane familiale. Mais elle vous dit j'ai moins peur des tempêtes que
des Chinois. Voilà. Alors c'était très impressionnant parce qu'on est vraiment en pleine mer et on a cru que le toit allait s'envoler, la maison allait faite de tôle et de planches de bois. Il pleuvait énormément. On avait les pieds dans l'eau. La maison était inondée. Mais voilà, effectivement, elle dit les conditions sont difficiles. C'est vrai, plus que quand je vivais sur le continent. Mais voilà, ici l'eau est gratuite, le logement est gratuit. Ils reçoivent du riz gratuitement tous les 15 jours. Les enfants peuvent aller à l'école. On a donné du travail à son mari sur les chantiers de construction parce qu'ils sont en train de construire une autre école en vue d'une population qui devrait s'agrandir. Ils construisent un hôpital. ils construisent des hôtels, si des touristes étaient amenés à venir sur l'île. Et donc voilà, c'est un acte patriotique.
Et sur l'école de Pagassau, qui accueille une centaine d'élèves, tous niveaux confondus, les cours d'histoire et de géographie, comme vous le disiez, sont très patriotiques.
Qui veut nous dire un mot sur son dessin ? Allez, Elgin, viens au tableau.
Moi, mon slogan, c'est Pagasa et la mer des Philippines occidentales sont à nous. J'ai dessiné des drapeaux qui représentent les différentes îles philippines. J'ai aussi fait une piste d'atterrissage, des bateaux de pêcheurs et des enfants qui jouent dans notre école. Voilà.
Ok, merci. On applaudit Elgin trois fois.
Ah là, la consigne était simple pour ces jeunes enfants. Il fallait imaginer un slogan et un dessin représentant la souveraineté philippine sur Pagasa et puis sur tous les autres îlots disputés. Tout de suite après cette rencontre, vous embarquez, Antoine Védeillé, à bord d'un commando de marine qui patrouille autour de Pagasa pour tenter de mettre à distance la marine chinoise, ou en tout cas montrer que les Philippines sont là. Mais on sent qu'il y a une méfiance, une inquiétude, même chez ces militaires qui sont a priori des soldats d'élite, quand ils aperçoivent un navire chinois. Le réflexe est quand même plutôt de calmer les manœuvres, voire de faire demi-tour.
Oui, mais parce que le rapport de force est complètement déséquilibré. D'ailleurs, quand on a filmé cette séquence, on était très surpris parce qu'on nous a annoncé qu'on allait pouvoir patrouiller avec le commando marine, les soldats d'élite de l'armée philippine qui protègent Pagasa. Et on se retrouve à embarquer sur une vedette pneumatique rapide et on se retrouve nez à nez avec un bateau des garde-côtes chinois qui est 50 fois plus gros. Ils ont beau être armés jusqu'aux dents, dès que les Chinois nous aperçoivent, les Philippins sont armés jusqu'aux dents, mais dès que les Chinois nous aperçoivent, ils jettent à l'eau eux-mêmes des navettes pneumatiques. Et les Philippins décident immédiatement de faire demi-tour. Et alors le lieutenant qui nous accompagne et qui est en charge de notre sécurité nous dit qu'on fait demi-tour parce que c'est dangereux pour nous qui sommes des civils. Eux n'en menaient franchement pas large. Et voilà. Je trouve que c'est intéressant parce que cette petite séquence résume le rapport de force complètement déséquilibré entre la Chine qui a la plus grande flotte du monde et les Philippines qui ont beau être alliés des Américains, des Japonais, des Australiens. Mais qui n'en mène pas large face au déploiement de forces opéré par la Chine.
Et cette séquence, elle illustre aussi les inquiétudes que vous confie un haut gradé de l'armée philippine, le général Romero Brower, qui lui vous confie que la zone est bien plus sensible qu'il n'y paraît, que la situation pourrait exploser à tout moment. Que craignent concrètement aujourd'hui les hauts responsables de l'armée philippine ?
Déjà, ils craignent d'être abandonnés par les Américains parce que Barack Obama avait opéré un pivot stratégique vers l'Asie et vers la zone Indo-Pacifique qui avait été renforcée par Joe Biden. Donald Trump a montré qu'il n'était pas particulièrement intéressé par la région et qu'il avait d'autres priorités. Et donc, les Philippins cherchent des partenariats stratégiques ailleurs, avec la France notamment, avec le Japon, avec l'Australie. Mais la zone, elle est stratégique et au-delà des zones de pêche et des fonds marins qui sont riches en hydrocarbures, ce qui intéresse les Chinois, c'est que c'est une zone stratégique en vue d'une invasion de Taïwan. La Chine a transformé des récifs, des bancs de sable, des îlots en base militaire, ils ont des stations de radar, des sites de lancement de missiles, des ports en eau profonde qui pourraient leur servir de base pour attaquer Taïwan. Et les Philippines ont peur de se retrouver au milieu, victime collatérale d'un conflit qui ne les concernerait pas directement, mais s'ils devaient se retrouver entre le feu des Chinois et des Américains autour de Taïwan, ce serait bien évidemment problématique pour eux.
Merci beaucoup Antoine Védeillé. Votre reportage Chine-Philippines, la bataille de la mer est à visionner sur le site de Arte. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup d'être venu dans le retour de terrain. Thank you.
I got what you need, you got what I want. 어느 밤에도 보고 싶은 나든 사귄 모습이 꼭 먹을라. 아디나 딜라, 니네나 말라라 말라. 사귄다세요. 외국으로 벗어가니 버리다. 런던 골랑 몰라 나만 말리샤. 물론 몰랑한 다고 말은 얘기한 바깥은 바래에서 다인 앞에 나기니빤 바깥방은 마하이난 알리 모양 빨랑 알람 무사리와 마가한 배로 가베 가마 아이솔로 바로 우리 문항 이다 나나가 이슬로모 사인 가는 숨바이 니글랑 숨어타랑 에러플라노 공부스톰을 농이빨 나일랑 월랑이바 에러플라노 시물라발랑 농구나망 일랄라가디바 몸이따스 바빠가이 가마 엠티 보로 가솔리나 니파프레노 가마 엠티 가야 공물라 Trip sa inyo, sagutin mo na lang ako. I got what you need, you got what I want.
Et c'est avec la voix du rappeur philippin Al James que l'on quitte l'archipel des Philippines. Vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission Actu du vendredi, direction à présent l'Ukraine.